Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soirée avec Monsieur La Sourdine. Mais avant, on brise les distances de sécurité rapidement.
Bonjour.
Alors, bravo déjà, parce que ça y est, Monsieur, donc, qui est un combattant dagestanais au MMA Factory, qui a eu une année 2019 explosive. Là, 2020, ça a pris un petit peu son temps, mais là, enfin, ça y est, Contender Series, c'est sûr. Et puis, il y a aussi le contrat avec Ares. Ma vraie question, c'est, au début, t'étais un peu, tu vois, Morgan Charrière.
Ouais.
Ouais. Ouais, ouais. Bah, Morgan Charrière était dans une situation pas similaire à toi, mais où, tu vois, il était sous les radars. Ouais. Il a fait cette émission avec Kameto, donc, qui est sur les réseaux sociaux. Il y a eu les résultats qui sont arrivés. Aujourd'hui, il a explosé. Ouais. Toi, très longtemps, je pense que tu es d'accord, tu faisais partie du Factory, mais on ne parlait pas spécialement de toi. Et là, tu as enchaîné deux combats, ces deux combats qui t'ont propulsé, et bah là maintenant, Monsieur est quasiment à l'UFC. Donc c'est quoi? C'est avec Fernand Lopez, qui est ton head coach, tu as eu une discussion?
Ouais, c'est juste, comme j'ai dit, je pense que c'est une période. Quand j'étais venu à la MMA Factory, c'était en 2016.
Ok.
En 2016. C'était un peu compliqué avec le combat. Enfin, des fois c'est moi qui me blessais, des fois c'est mon adversaire. Donc j'étais pas assez actif.
D'accord.
Pour le combat, donc voilà, ça durait, je restais patient, etc. Mais puis en 2010, c'est là que ça s'est explosé, les combats sont venus. C'était la période du.
Attends, quand tu dis ça, c'était 2010
en 2019.
2019, oui, voilà. Okay, 2019.
C'était en 2019, j'ai enchaîné les combats, j'en ai fait 4 ou 5. 4, je pense, et je les ai tous gagnés, et c'est là que l'opportunité est venue. J'ai signé à Ares. Au début, je devais prendre, c'est pas Jonathan Meunier que je devais prendre.
Non, Jonathan Meunier, c'était une short notice, je crois, d'une semaine ou quelque chose comme ça.
Plus,
non,
c'était, plus. Ouais, c'était une short notice de 3 ou 4 semaines.
Autant pour moi.
Ouais. et non, au début, je devais prendre un Mexicain qui était aussi pas mal. Ouais, qui avait enchaîné 13 victoires pour 0 défaite. Donc lui, c'était un lutteur, c'était un autre travail. Donc bon, bref, lui, tu sais, il a eu des problèmes de visa, etc. Il n'a pas pu décoller.
Et finalement, Jonathan Meunier.
Finalement, ouais. On m'a proposé Jonathan Meunier. J'étais super content parce que je le connaissais, tu sais, déjà.
Ok.
Dans le monde du MMA, il était un peu quand même connu. Comme c'est déjà, ça m'a encore plus motivé, ça m'a, tu sais, j'étais content. Et voilà, je me suis entraîné encore plus dur. Et
tu t'attendais à ce finish parce que, je vous invite, d'ailleurs, je crois qu'il est disponible sur la chaîne YouTube d'Ares. La finition, c'est parce que monsieur, son surnom, c'est le Russian Sniper. Attention, et c'est vrai que dès que tu l'as touché, t'as vraiment cet instinct de tueur, entre guillemets, où toi, tu laisses pas du tout respirer les gars. Dès que tu sens que le mec est blessé, bah ça y est, faut que tu le termines. Ça, c'est depuis le début que t'as ça ou comment ça s'est passé? T'as eu des discussions avec Fernand Lopez?
Non, si tu regardes ma carrière, sont quasiment tous mes combats, je les ai quasiment terminés en première ronde.
Exact.
Sans trop.
Soit soumission, soit KO.
Ouais,
c'est vrai.
Sur mes 8 victoires, j'en ai 7 au premier round, soit soumission, soit KO. Donc non, contre Jonathan Meunier, j'ai vu qu'il était touché. Le game plan, c'était pas de finir au premier round. J'étais prêt pour faire les 3 rounds. Le game plan, on l'avait préparé avec Lopez, Pico, mon frère Daguir. Donc voilà, j'étais prêt pour faire 3 rounds. Et j'ai vu une bonne occasion. J'ai vu que quand il envoyait son bras avant, il était un peu trop long sur son bras avant. Il s'est jeté trop. Donc là, j'ai réussi à le contrer et j'ai vu que je pouvais finir le combat. Mais tout en faisant attention, je ne me suis pas jeté à. Je n'ai pas tout donné. Quand même, je faisais attention. je pensais au prochain round.
Ouais. Enfin,
c'est pas, j'ai pas donné tout, moi, j'ai pas gaspillé toute mon énergie. Et du coup, voilà, c'est terminé. J'ai gagné par TKO au premier round. Ouais.
Chapeau. Mais et ça, c'est quelque chose que tu travailles à l'entraînement, ce côté, parce que je parlais avec Taylor Lapillus, qui disait justement quand la sourdine commence à avancer et commence à justement trouver le rythme, à un peu choper le rythme de l'adversaire, c'est terminé. Ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé au factory ou que, on va dire, c'est pas inné chez toi, mais que tu as naturellement?
Non, je travaille pas spécialement. Tout ce que je travaille surtout mon cardio. Je travaille, tu sais, je m'entraîne à très intense.
Okay.
Je veux que, ouais, du premier round jusqu'au dernier, il faut que ça soit intensif pour justement améliorer mon cardio. Mais sinon, non, pas spécialement, je ne travaille pas les finishes. Par contre, je devrais, parce que plus tard, ça va être très intéressant.
Exactement, parce que les bonus à l'UFC, c'est 50 000 $ quand même.
Ça, exactement.
et donc là, avec le confinement, monsieur a quand même pris physiquement. Hein. Là, c'est assez impressionnant. Est-ce que, parce que tu as combattu chez les welter,
ouais,
si je ne m'abuse,
c'est à 77 kilos.
Et là, définitivement, tu es chez les middleweight ou qu'est-ce que...
Définitivement, c'est pas encore sûr. C'est pas okay. encore sûr parce que je n'ai pas encore fini avec les 77. Depuis le début, je combats à 77 kilos. Donc, je voudrais quand même faire quelque chose à 77 aussi avant
D'accord.
de... Voilà. Avant de définitivement laisser cette carrière. Mais sinon, ouais, le prochain combat sera à 84. Cette décision a été prise pas que par moi, mais par toute la team.
Ok.
Par Fernand Lopez, Nicolas.
Nicolas Haut, donc qui est en charge de la performance au MMA Factory.
C'est ça, mon préparateur physique, Ryan Gillet. Très, très bon préparateur physique. Bon, voilà, c'est une grosse team. Voilà, on a pris cette décision là parce que à 84 déjà il y a moins de concurrence.
Ah, ok.
Et pas que, en fait, on a vu qu'avec le temps ça devenait de plus en plus dur pour moi de descendre de poids.
D'accord.
De poids.
Et quand est-ce que tu l'as vu ça d'ailleurs le...
C'était l'avant-dernier combat en Pologne.
Oh, d'accord. Ok.
Ça c'était pour la ceinture. 77 kilos, j'avais perdu 14 kilos à ce moment-là.
Moi, en combien de temps?
Je revenais de 1 mois et 2 semaines.
D'accord. Et okay, c'est Nicolas Haute qui s'était chargé du cutting.
C'est ça, exactement. C'est lui qui s'est chargé de A à Z. Du coup, oui, on a vu que c'était... En fait, je perdais le poids. On a constaté que je perdais énormément de muscles aussi. Parce que au combat, parce que je mange peu. Tu es obligé de manger peu,
ouais,
pour descendre de poids. Je suis grand de taille pour 1m77. Quand il reste 2-3 semaines, je mange quasiment plus. Et qui dit peu, il dit peu
c'est
de protéines.
Et peu d'énergie aussi. Ouais.
Exactement. Et ce qui fait que j'ai perdu en muscle. Je perdais en muscle et je ressentais au combat que j'avais 50% de ma force que j'ai actuellement. Je perdais énormément de force. Alors, du coup, on a pris cette décision, mais c'est un peu dommage que... Voilà, je ne vais toujours pas laisser tomber cette catégorie.
Oui. Oui, parce que tu n'es pas allé au bout non plus. Mais bon, parce que donc Nassourdine fait 1m91, c'est ça? Tu mesures
91.
Donc, donc c'est vrai que chez les welterweight, t'es énorme quand même par rapport à tout le monde.
Carrément.
Et là, chez les middleweight, je pense que toi, t'es beaucoup plus à l'aise parce que ça va te faire un cutting moindre. Mais c'est vrai qu'il y a des monstres dans la catégorie. Quand tu regardes le top du top, je pense pas à Adesanya, parce que enfin, c'est le top du top, mais ce que je veux dire, c'est que physiquement, tu vois, je pense qu'il est un peu comme toi.
Je pense un peu à Costa.
Exact. Costa. Exactement. Quand tu vois des gars comme Costa, des gars comme Romero, est-ce que tu commences déjà à te dire oh là, va falloir y aller?
Ouais, c'est sûr, je me pose des fois, je me pose des questions. C'est un cas sans stock. Mais le truc, c'est que ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Après, t'as la vitesse, la précision, la vivacité, tu sais, il y a tous ces trucs-là. Donc, je pense qu'avec un bon game plan, je pourrais. Bon, on va pas. Je pense que.
Oui, non, complètement. Et là, maintenant, avec le fait de te dire, ça y est, l'UFC, ça devient une réalité pour toi, est-ce que tu commences à avoir des combats un peu rêvés, entre guillemets, où tu vois, tu te permettais pas avant de te dire, bon, bah là, je vais pouvoir affronter tel ou tel gars, mais maintenant, tu vois, avant de t'endormir, tu fais, ce serait quand même pas mal de faire ça.
Ah oui, carrément. Et je vais te dire plus, je rêve depuis que j'ai commencé les MMA, je rêve de l'UFC, je rêve dans ma tête, c'est comme ça. C'est que j'imagine d'affronter cet tel combattant. Moi, je vais pas te dire
tout. Allez,
dans la tête.
Non, mais là, tu vas un. Pour un fou, non, mais j'imagine qu'il y en a un quand même. Il y a un gars qui te fait rêver.
Plus tard.
Ah oui, bah oui, oui. Ah, bah, évidemment, les gens.
C'est Adesanya, il est toujours champion.
Ah ouais, bon. D'accord. Voilà, ok.
On va trop loin là.
Mais parce que t'aimes bien son style ou parce que c'est. Ou c'est juste parce que c'est le champion?
Juste parce que c'est le champion. C'est tout. Celui qui sera le champion.
C'est d'accord.
Ouais, mon rêve en fait, c'est de prendre la ceinture.
Ok.
Bon, bah, peut-être je parle trop.
Ouais, non, c'est bien d'avoir de l'ambition.
On avance, ouais, mais c'est ça dans ma tête, c'est ça. C'est pas que juste de rentrer à l'UFC. Ça m'intéresse pas, c'est une organisation pour moi comme une autre. Et rentrer, c'est bien, mais après.
Et quand tu vois un petit peu, donc tu as la chance d'être au MMA Factory et tu t'entraînes par exemple avec Cyril Gane qui lui est à l'UFC, il y a eu d'autres combattants du Factory qui ont été à l'UFC, toi, qu'est-ce qu'il y a que tu. J'imagine que tu pioches des choses dans leurs entraînements ou alors au contraire tu fais ta vie un petit peu de ton côté?
Oui, déjà ça motive beaucoup de s'entraîner avec ces mecs-là, c'est énorme. Cyril Gane, c'est le futur, c'est sûr et certain. Puis après, il y a d'autres combattants comme, un peu moins connus, comme Ahmed Salamov, Tueur à Gage en lutte, Slim, John, mais il y en a plusieurs. Je prends un peu de tout le monde. Je prends un peu de tout le monde, pas spécialement des gars qu'ils ont. Tu vois ce que je veux dire? Je prends un peu de tout le monde, mais sinon, j'essaie de garder quand même mon style. Mais sinon, les bonnes choses, je les prends. Par exemple, Cyril, son déplacement, j'aime bien comme il se déplace. Et je travaille ça en ce moment. Ça sera mon game plan pour le prochain combat. Ouais.
Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce que Fernand Lopez t'a appris, on va dire, qui a le plus changé, toi, ton approche dans le sport? Ou même Nicolas, tu vois, un apport d'un coach qui a fait que tu te disais « Ah ben, j'imaginais pas pouvoir soit faire ça ou soit mettre en place ce genre de game plan
?» Mettre le débit.
On d'accord. Envoyer
plusieurs coups avant. Bon, on ne s'est pas connu avant. Quand j'étais venu à ma factory, j'étais plus. Je venais de la boxe anglaise déjà. Et mon style, c'était de combattre en corps à corps. Mm-hmm. Je combattais beaucoup en corps à corps et j'envoyais un coup, maximum un. J'encaissais deux. Et j'avais toujours peur de ne pas avoir assez de cardio pour finir les rounds.
D'accord.
Avant, en boxe anglaise, c'était trois rounds. Donc, je sous-estimais toujours mon cardio. Du coup, c'est ça, il m'a appris que. Il m'a montré que j'avais un bon cardio et que c'était dans la tête. Il m'a appris à débuter beaucoup.
Et comment ça s'est passé, ça, pour qu'il y ait le déclenchement justement dans ta tête, que tu passes de peut-être que si là j'accélère, je vais galérer dans le prochain round, à bah, je peux me permettre justement de lâcher les chevaux?
Ouais, c'est avec le temps.
D'accord.
Vraiment, c'est pas venu du jour au lendemain. Ça a pris du temps, quand même. Ça a pris énormément du temps. J'entendais toujours Lopez. Crier, allez, Nassau, allez, débit, envoie les coups, relâche. Donc, ouais, non, ça a pris beaucoup de temps.
Et là, ça y est, maintenant, 2019, superbe année, 2020, on va valider tout ça. Et comment ça se passe, on va dire, l'avant, pour un combattant qui est comme toi, qui est jeune, donc tu as 24 ans aujourd'hui, mais tu vois, tu étais considéré comme espoir, on va dire du même, mais espoir sous les radars. Donc, toute cette période-là où tu es un petit peu obligé de ronger ton frein, tu n'as pas forcément de combat. Et tu te dis, j'ai envie de progresser, mais il n'y a pas d'opportunité qui se présente finalement. Donc, comment ça se passe cette période-là?
Tu veux dire l'époque où. C'était l'époque 2017 où j'avais pas.
Ou non, ou même. Enfin, tu vois, même avant un petit peu l'explosion, tu vois. Genre, quand tu étais, il y a un moment, tu as été à 3-2, je crois, comme bilan.
3-2, ouais.
Ouais, quand tu étais à cette période-là, comment est-ce que tu t'es dit, bon, les rêves du UFC, c'est peut-être plus possible? Comment est-ce que tu te sentais à ce moment-là mentalement?
Non, franchement, j'y croyais toujours. J'y croyais toujours. J'essayais de rester motivé. Je venais tous les jours à l'entraînement. S'il y avait des jours où j'avais pas envie, pas de motivation, je prenais quand même, sans réfléchir, je prenais le sac et j'allais à l'entraînement. Ça me faisait du bien. Et en fait, à l'époque, je comptais beaucoup sur les short notices aussi. Donc. Tu sais pas quand est-ce que tu vas combattre.
Exactement.
Demain, peut-être je vais combattre cette semaine. Ah non, ben, ça sera la semaine prochaine. C'était comme ça à chaque fois. Je vais combattre bientôt, dans un mois. Et le temps est passé vite. C'était pas. Voilà, je restais focalisé J'arrêtais jamais de m'entraîner.
Oh là là. Eh ben super, comme quoi le travail paie. Et aujourd'hui, est-ce que tu préfères justement ce côté un petit peu adrénaline d'avoir les combats en short notice? Parce que mine de rien, le combat contre Joe Meunier, c'était en short notice. Et c'est bah, peut-être, en tout cas moi je pense, hein, ton plus beau combat jusqu'à maintenant, parce qu'il y a le nom, il y a le finish, et puis il y a eu beaucoup de résonance. Toi, tu préfères être en short notice ou avoir beaucoup de temps pour préparer un combat?
Non, je préfère quand même avoir du temps.
Okay.
Ouais, j'aime bien quand c'est carré, tu vois. C'est de préparer le game plan, de travailler le truc. Je suis bien, quand c'est comme ça, je suis bien physiquement et psychologiquement. Mais après, quand c'est un short notice, ça me voit aussi. Donc c'est pas plus mal. Ce qui est bien avec le short notice, c'est que c'est des opportunités en fait.
Exactement.
Tu vois. C'est quand tu as un short notice, que tu dois affronter un bon nom, tu t'acceptes et tu y vas.
C'est ça. Et cette discussion-là, est-ce que tu les as avec Fernand Lopez, parce qu'il y a aussi la structure Management Factory qui s'occupe de ta carrière, est-ce que tu as ces discussions-là aussi à dire, bon, c'est un short notice, mais c'est vrai que si tu gagnes, ça va t'ouvrir des portes? Ou est-ce que tu vois toi uniquement le sportif?
Non, pas tout le temps. Moi j'essaie de ne pas m'occuper de cette
affaire-là.
Je fais confiance à mon équipe. Ils gèrent très bien.
Bah oui, bah vous pouvez le voir.
Ouais, ils gèrent très bien, je leur fais confiance et je préfère rester sur focalisé sur ce que j'ai à faire moi.
Et jusqu'à maintenant, du coup, comme toi tu t'occupes pas du tout de cette partie-là, quand il y a des adversaires, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire on va peut-être pas prendre ce combat-là?
Non. Non, parce que je sais que quand on propose cet adversaire-là, je sais que derrière, Lopez, par exemple, il a dû regarder ses combats une centaine de fois. Puis Benjamin, Nico, toute mon équipe, quoi. Et donc, comme j'ai dit, je leur fais confiance. Et non, il n'y a pas de « j'affronte tout le monde ». J'affronte tout le monde.
Et le travail paie. Et là, il y a aussi ton frère, donc Dagir Imavov, qui est combattant. Ouais. À quel point est-ce que ça aide d'avoir un frère, enfin, ou un membre de sa famille, qui est aussi exactement dans la même mouvance, parce qu'il a un bilan de 12-3-1 ou 12-2-3 ou 12-2-1, pardon.
Ouais, c'est ça.
À quel point ça aide, voilà, d'avoir un frère qui est combattant aussi?
Ah oui, ça aide beaucoup. En fait, on se tire vers le haut. Quand, par exemple, à un moment, on vivait dans le même appartement, quand il y en a un, il ne veut pas aller à l'entraînement, c'est l'autre qui pousse. Si c'est moi qui a la flemme, c'est mon frère. C'était plus souvent mon frère qui me poussait. C'est pas moi. Donc, ouais, non, ça aide beaucoup. Ça aide carrément.
Et il a été là dans les nombreuses victoires et dans les petites défaites, malheureusement. Est-ce que ces moments-là, c'est aussi des... On va dire ça vous rapproche un petit peu, parce que c'est vrai qu'une défaite en MMA, c'est jamais très simple à surmonter. Vous deux, est-ce que vous avez des discussions quand c'est arrivé de dire, bon, bah là, il va falloir modifier ça, ou alors c'est... Il y a ton frère d'un côté et le MMA Factory, le coaching staff de l'autre?
Non, bien sûr, ça nous arrivait déjà... C'est avec la team qu'on en discute. Ben ensuite, à la maison, c'est sûr qu'on regarde le combat plusieurs fois. On cherche les erreurs qu'on a fait. Puis voilà, par exemple, je me rappelle ma dernière défaite en Pologne. Ça remonte à 3-4 ans. Mais heureusement qu'il était là parce que mentalement, j'étais très bas. J'étais très, très déçu. Et il était là à mes côtés à me dire c'est rien, t'es encore jeune. Et voilà, c'est très important d'avoir.
Et donc là, il sera du voyage pour lui. Enfin, t'imagines avoir toujours ton frère avec toi pour tous les combats de toute façon?
Ah oui, carrément, bien sûr. Bien sûr. Ça motive beaucoup.
Est-ce qu'il y a des moments où justement il y a eu un, tu sais, pas un passage de relais, mais dans le sens où ton frère, quelque part, il te connaît mieux que personne? Donc tu vois, par exemple, un moment où tu as Lopez ou Nicolas qui vont te donner des instructions par rapport au combat, et lui il fait ah non, peut-être que Nassourdine, là, il pourrait peut-être faire autre chose. Est-ce qu'il apporte aussi ça un petit peu par rapport à eux, qui fait que tu as bah, d'un côté un coaching staff qui est au top du top, mais de l'autre, ton frère qui, comme lui, te connaît, mais bah, depuis que. Bah, voilà quoi, c'est ton frère. Donc, est-ce qu'il t'apporte ça aussi?
Oui, bien sûr. C'est mon frère. Il m'apporte déjà, avant le combat, il m'apporte beaucoup de motivation.
D'accord.
Il me parle avant le combat. Tu vas faire ça, tu vas faire ci. Et par contre, au combat, il essaye de pas trop parler. Il essaie de parler Lopez, et quand il veut me faire passer le message, mais en fait c'est la stratégie un peu, il dit à Lopez et Lopez me fait passer le message.
D'accord.
Donc pendant le combat j'entends que la voix de Lopez, ou si c'est un autre coach, voilà, il fait passer le message comme ça.
Et jusqu'à maintenant, donc tu parlais du combat contre Jomini, où c'est toi qui as fait les ajustements tout seul, où tu t'es rendu compte et tu as saisi cette opportunité-là, mais est-ce qu'il y a un combat sur les 10 combats que tu as eu dans ta carrière professionnelle pour l'instant, où il y a eu un moment au cours du combat, Lopez ou un des membres de ton coaching staff qui t'a dit « faut que tu fasses ça » et bingo, tu as saisi cette opportunité-là?
Tac, tac, tac. Ah, il faut réfléchir un peu. J'espère que tu vas couper cette partie. Mais oui, bien sûr, j'écoute pas que sur un truc, sur beaucoup de trucs. J'écoute, franchement, mon coin, je l'écoute, comme je t'ai dit, je leur fais grave confiance. Et quand ils me disent de faire un truc au combat, j'écoute très attentivement, parce que même quand il me dit mets le coup en bas, je vais mettre le coup en bas, attention à ses crochets, je vais faire attention, ramène-le au sol. Je vais ramener au sol. Et ouais, non, j'écoute mon coin et il n'y a pas de...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Y a pas eu de ce moment-là où, comme tu dis,
pour l'instant, donc Monsieur Imavov est Daghestanais. Voilà. Est-ce que tu gardes, on va dire, des liens avec ta région d'origine, ou est-ce qu'au contraire maintenant, par exemple, sportivement, c'est uniquement le factory? Est-ce que tu vas faire des stages là-bas? Comment est-ce que ça se passe exactement?
Non, pas vraiment. La dernière fois que j'ai... Non, pas vraiment. Depuis, ça fait un petit moment quand même, je ne suis plus retourné au Daghestan. Non, depuis que je suis à la factory, ma factory, j'ai bougé nulle part.
Mais est-ce que tu comprends, toi, aujourd'hui, qu'il y a une espèce de... une invasion de combattants daghestanais à l'UFC? Parce qu'il n'y avait pas ça il y a quelques années. Aujourd'hui, tu vois, dans de multiples catégories, les meilleurs viennent du Daghestan. Et toi, même si aujourd'hui, tu es un pur produit du factory, les médias étrangers, avant de dire que tu viens de Paris, diront c'est un daghestanais, même si, comme tu l'as dit, tu n'as pas forcément de lien sportif avec cette région. Toi, est-ce que tu comprends ça?
Tu sais, au Daghestan, déjà parce que la lutte, tu sais qu'en MMA, ça prend la première place. Si tu es lutteur, tu as plus de possibilités d'aller loin. Déjà, ce sont quasiment tous des lutteurs au Daghestan. Chez nous, là-bas, la tradition, c'est la lutte. Donc, les combats, tout le monde commence la lutte là-bas. Même moi, avant de venir en France, j'avais fait de la lutte au Daghestan.
D'accord.
Et même si tu ne vas pas dans un club, ça sera, tu vas lutter tout le temps avec tes amis quand tu sors dehors, promener, ça part en lutte, tu vois ce que je veux dire, c'est la tradition. Après, je sais pas, ils ont faim, quoi. Là-bas, ils ont envie de s'en sortir, c'est pas... Voilà.
Et toi, tu romps un peu avec ça, parce que Russian Sniper, donc c'est plutôt le striking, ton truc, et le sol, comment est-ce que ça se passe exactement là? Est-ce que c'est un... Monsieur a évidemment des victoires par soumission, mais est-ce que c'est quelque chose où tu te dis je peux potentiellement faire un combat exclusivement là-dedans s'il le faut?
Ah oui, carrément. Là pour le moment, j'ai gagné mes combats plus en striking. Mes combats, je les ai fait. Les combats, si tu regardes, sont quasiment.
Exactement.
Je reste toujours debout. Mais sinon, s'il faudra lutter, je garde ça comme surprise pour plus tard. S'il faudra lutter, il n'y a pas de problème, je vais lutter.
Et parce que c'est vrai qu'au Factory, il y a Salamov qui est hyper bon, il y a Slim aussi. Est-ce que tu tournes régulièrement avec eux aujourd'hui? Comment est-ce que ça se passe, tes entraînements? Est-ce que tu es plus avec Cyril Gann qui est un heavyweight, ou alors au contraire, tu vas avec Salamov qui est assez imposant aussi pour un middleweight quand même, ou est-ce que tu tournes avec un petit peu tout le monde?
Je tourne un peu avec tout le monde. Ils sont tous assez forts dans leur domaine. Mais sinon, je tourne très souvent avec Ahmed Salamov. C'est un tueur, tu connais. on tourne beaucoup. Et d'ailleurs, on me fait penser à Timaev.
Ah oui.
Il me fait penser beaucoup à Timaev. Il a carrément le même style et je pense que dans le futur, il va avoir le même parcours.
Retenez ce nom.
Carrément, carrément, vous allez entendre beaucoup parler de lui. Ouais, on lutte beaucoup, on travaille le sol. Ce qui est bien avec Ahmed, c'est que moi, je peux l'apporter en striking et lui, il peut m'apporter en lutte. C'est comme aussi que je pense que c'est le destin qui nous a réunis, tu sais. Il était venu à la MMA Factory, il n'avait jamais fait de la boxe anglaise et la progression, elle est énorme. En un an, c'est un truc de ouf. Et du coup, voilà, moi, je l'apporte en boxe anglaise et pied-point. Et lui, en tout ce qui est lutte, tout ce qui est grappling, etc.
Et là, est-ce que du coup, tu commences ? Parce que monsieur en grappling, il est avec des Golgoth comme Salamov ou Slim. En striking, tu es avec Cyril Gane. Est-ce que tu commences pas à te dire peut-être que je pourrais aussi aller chez les light heavyweight ?
Des fois.
Ah !
Des fois, ouais. Des fois, ouais, non. C'est encore trop tôt pour en parler. Mais pourquoi pas pour plus tard, hein, comme mon poids il évolue, je pense qu'il va évoluer encore avec le temps. Aujourd'hui j'ai 24 ans et je pense qu'avec le temps je vais encore prendre de la masse musculaire, pourquoi pas plus tard.
Et comment t'envisages la suite du coup là, parce qu'il y a Contender Series ou UFC, enfin dans tous les cas ça va être l'organisation américaine. Après, est-ce que toi, tu vois, tu as déjà un plan en termes de rythme de combat ? Parce que c'est vrai que là, l'année, ça a été quand même très, très vite pour toi, hein, on va pas se mentir. Ou est-ce que tu veux te dire, bon, on va peut-être un petit peu se calmer, malgré, c'est vrai, le confinement qui a peut-être un petit peu ralenti les choses ?
Non, franchement, si j'ai fait un combat, par exemple, là, j'ai un combat de prévu au Contenders. Je fais un combat là-bas, j'aimerais bien combattre tout de suite derrière. Mm-hmm. Tout de suite derrière, n'importe, même une semaine. Parce qu'en fait, j'aime bien d'enchaîner les combats. C'est à ce moment-là que je suis prêt. Je vais gagner. Je vais faire mon combat. Toute la préparation, en fait, ça va m'éviter de faire un combat, de me laisser aller, comme je fais d'habitude, partir en vacances chez mes parents dans le sud et me laisser aller. Je préfère enchaîner et toujours rester en forme. Pendant que je suis en forme, enchaîner les combats et puis faire la pause.
Et quand tu vois ce qu'a fait, bon, tu vas excuser ma prononciation, parce que bon, c'est pas. Parce que ce qu'a fait Ramzan Chimaev là, sur ces deux combats, et puis ensuite, tout le buzz qu'il a créé, est-ce que toi, tu pourrais, je sais pas, potentiellement te dire, avoir cette attitude là aussi qu'il a, parce qu'il y a eu les performances dans la cage, mais après le fait de dire, je veux tout le monde, je veux Donald Cerrone, je peux combattre en middleweight, je peux combattre en welterweight, je peux combattre en lightweight, je peux combattre dès la semaine prochaine. Est-ce que toi, tu te prépares aussi à ça, de dire, bah, quand il va y avoir le micro, bah, tu vas peut-être être obligé de dire, bon, bah.
Là, il y a du boulot, là. Déjà, je ne suis pas très à l'aise devant les caméras. Des fois, je pense. Tu sais, de nos jours, c'est très important, le trash talking, de parler. C'est ce qu'ils cherchent, tu sais, ça fait du show, le buzz, etc. Et c'est ce qu'ils cherchent l'UFC, donc au bout d'un moment, on sera obligé de parler.
Mais déjà, attends, peut-être que je raconte n'importe quoi, mais à Arès, t'avais pas demandé le bonus lors de la post-fight interview ?
Donc voilà. Je crois que je l'avais pas demandé au micro. Si,
t'avais demandé au micro. Ouais. Et ça, c'était quelque chose que t'avais préparé avant ou c'est venu naturellement ?
Non, c'est venu naturellement.
D'accord.
C'est avec les émotions.
Ok.
Après le combat, c'est venu tout seul.
Et donc, juste parce que j'ai regardé la plupart de tes combats et c'est vrai qu'il n'y a pas. C'est assez rare, tu vois, qu'il y ait une explosion chez toi. Tu vois, qu'il y a des mecs, c'est la délivrance et tu sens qu'ils lâchent tout. Toi, tu restes quand même, t'arrives à maintenir un petit peu le contrôle et à rester assez réservé. Et justement, quand c'est l'après-combat comme là où t'as rompu avec ta timidité entre guillemets, est-ce qu'il y a des moments comme ça où t'as intérieurement certes lâché prise, par exemple, je sais pas moi, le titre en Pologne ou d'autres combats où t'as fait j'ai réussi à le faire?
Non, tu dirais genre
lâcher prise quoi.
Non, pas vraiment.
Et tu penses que ça pourrait arriver ça?
Je sais pas, je te dirai quand ça va arriver, je te tiendrai au courant.
Parce que j'imagine quand même, quand tu auras la ceinture UFC, tu te diras, tout ce travail.
Ah là, ouais. Ah, c'est pas. Ouais, je comprends mieux ta question. Ouais, c'était arrivé contre Jonathan Meunier quand c'est fini, où j'ai dit à Pico, Kim Pico qui me coachait ce soir-là.
Complètement.
D'ailleurs, c'est Pico, mes coachs, c'était Daguir et Tonton. Et je leur ai dit, en fait, tout ça pour ça, toute cette préparation pour ça, parce que la préparation était hardcore.
D'accord.
Ouais. Et le combat, c'est fini super vite. Et du coup, je lui ai dit tout ça pour ça, finalement.
Et quand tu dis tout ça pour ça, c'est-à-dire, tu t'as vu pourquoi t'avais travaillé, ouais.
Oui, j'ai vu pourquoi j'ai travaillé, mais je veux dire, je sais pas,
Ah, t'étais
je
frustré un
m'attendais
peu?
à plus, à donner plus d'efforts, me montrer ce que je veux, plus que, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Genre, je sais pas, pour me montrer aux spectateurs ce que j'ai travaillé à l'entraînement, mais
C'est vrai que ça a
c'est
été
fini
rapide.
assez vite. Ouais.
Ouais. Oh, mais en tout cas, un sacré combat. Donc, le dernier à Arès. Et là, pour les combattants actuels, est-ce qu'il y en a en particulier qui, toi, que t'aimes bien regarder? Parce qu'il y a certains combattants, tu vois, par exemple, qui n'ont pas du tout un. Qui se concentrent uniquement sur eux. Toi, est-ce que tu regardes les Fight Night? Est-ce que tu regardes les UFC numérotés? Est-ce que, quand tu vois tel ou tel gars, tu fais, ah, j'aimerais bien réussir à faire ça?
Honnêtement, je regarde pas tant que ça.
Ok.
Franchement, les combats, ces derniers temps, je regarde pas trop. Parce que je passe tellement de temps à la salle, tu sais, les sparring, les entraînements, ça m'épuise tellement que quand je rentre à la maison, j'ai envie de sortir de tout
Tu veux
ça.
faire autre chose, ok.
Ouais, exactement. Mais sinon, de temps en temps, ouais, je regarde, il y a des. Tu sais, je regarde, il y a des styles qui me plaisent, je regarde ce qu'ils font, j'essaie de prendre des bonnes choses. Tu sais, quand je vois un bon coup, une bonne technique, même au sol. J'essaie de le reproduire le lendemain au combat, à l'entraînement, pardon. Et du coup, voilà.
Et donc quand tu vois, t'as deux catégories, donc là pour toi, welterweight et middleweight, t'as deux champions où pour l'instant, par exemple Adesanya contre Costa, bah, il part favori. Ousmane a confirmé contre Masvidal, mais c'est deux vrais champions, tu vois, forcément ils sont pas là par hasard, mais tu vois, on se dit ils vont peut-être rester pendant longtemps, ils ont deux styles complètement différents. Toi, quand tu vois Kamaru Ousmane, est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi il domine autant?
Ouais, je pense qu'à ce niveau-là, ça se joue beaucoup aux petits détails que pas tout le monde qui les voit. Par exemple, faire très attention quand, par exemple, Khabib, on va prendre l'exemple. Et certes, c'est un technicien, mais quand il combat, il fait pas des trucs de ouf. Il rentre dans les jambes comme tout le monde. Et puis à ce moment-là, c'est des petits détails qui jouent, qu'il arrive à ramener après, c'est la puissance, etc. Je pense que Kamaru Usman, c'est pareil. Il a beaucoup de puissance déjà, la puissance ça doit être énorme. Et ensuite, je pense qu'il joue sur des petits détails comme, tu sais, te déséquilibrer au bon moment, ou d'enlever les appuis, tu sais, quand tu mets la main, hop, tu enlèves la main, tu tombes. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça se joue beaucoup à ça, à ce niveau-là, c'est que des petits détails.
Et pour poursuivre sur Kamaru Usman, il a aussi cette capacité, tu vois, il impose un rythme, et puis tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, et puis au bout d'un moment, le mec, il coule. Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé à l'entraînement d'être dans des situations comme ça, où avec Lopez, justement, il disait, Nassour, il faut que tu mettes du débit, et il attend pas le point de rupture, mais tu vois, faire en sorte de justement de repousser tout ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'être dans des situations où se retrouvent finalement les adversaires de Kamaru Usman, où tu es en sparring, ou à l'entraînement, et là, t'en peux plus? Mais faut que tu continues.
Ah oui, carrément, carrément. Au sparring, ben en fait, à chaque fois quand je vais à un sparring, j'essaie de me donner au maximum. Genre, en plus, on a 2 fois dans la semaine le sparring, et c'est des sparring durs, et c'est là qu'il faut se donner. Et moi, à chaque fois, je vais avec un objectif, on va dire, de me donner, genre, je ne peux plus. C'est un peu du hard work, quoi.
Ouais.
À ce moment-là, et du coup, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois où j'en pouvais plus. Il y a des moments où j'arrive plus à respirer. Tu vois, il y a des moments où je pense ne plus jamais reprendre mon souffle tellement je suis fatigué. Oh, il y a eu des moments comme ça.
Et quand tu fais les sparring avec Cyril, est-ce que c'est
Très
extrêmement
compliqué.
compliqué?
Très compliqué. Je t'inviterai la prochaine fois. Quand tu vas venir au sparring la prochaine fois,
Salut.
tu verras.
Non, mais, parce qu'on a vu quelques images, puisque Rust est régulièrement ici. Mmh. Et ça, pour toi, quand tu fais les sparring avec Cyril, c'est toi aussi qui as envie de t'imprégner de ce qu'il t'apporte, ou au contraire, c'est vraiment pour, plus pour lui l'entraîner, ou c'est tous les deux à chaque fois pour préparer vos deux combats?
Ah, c'est... Après, c'est... ça dépend. Là, par exemple, la dernière fois que je tournais avec lui, c'était pour son combat. Tu sais, il devait prendre...
Pavlovitch.
Yes, il devait prendre Pavlovitch. J'étais là pour l'aider pour sa préparation. Mais en même temps, ça m'aide beaucoup aussi. Parce que voilà, c'est Cyril, aujourd'hui, il a pas mal d'expérience. Il a fait déjà trois combats.
Ouais, trois combats, trois victoires en 6 mois.
Voilà. Énorme. Donc voilà, c'est un peu, comment dire, un prestige pour moi. J'apprends beaucoup avec lui. Et voilà, et ça me motive aussi, même psychologiquement. Quand tu tournes avec des gars comme ça et que tu dois affronter un Polonais, ou t'es confiant, tu vois.
Est-ce que tu t'es déjà dit, justement, là tu parlais de confiance, après une super prépa au Factory, quand t'entres dans la cage, ça va être facile? Enfin, sans se dire ça comme ça, mais tu vois, où t'étais, ouais, vraiment complètement serein, et tu t'es dit, bah j'ai fait, je sais pas moi, 2 mois de sparring avec Cyril, ça s'est plutôt bien passé, là j'affronte un mec, ça va le faire.
Ah oui, carrément, franchement, ça m'arrive presque à tous mes combats, tu vois. Avant les combats, j'ai pas trop de stress. Et je pense que, je sais pas exactement pourquoi, pour le moment, mais je pense que c'est surtout pour ça, tout ce que je donne à l'entraînement, avec des gars que je tourne, Slim, Ahmed, Cyril, John, le futur, Mehdi, il y a plein de gars. Et quand tu tournes avec des gars comme ça, c'est logique. Tu rentres au combat, t'es serein, t'es bien psychologiquement. Et ouais, non, je rentre au combat, je suis à l'aise, je suis confiant.
Et là, l'ultime question, parce qu'on va le laisser tranquille, bien évidemment, c'est finalement, tu parlais d'être à l'aise, de ne pas avoir de pression, machin. Est-ce que là, le combat à l'UFC, j'imagine, là, c'est la première, entre guillemets, interview où on en parle, mais il va y avoir plus d'interviews, il va y avoir des médias étrangers aussi qui vont t'interviewer, il va y avoir les caméras d'ESPN. Est-ce que tu te dis pas, je vais faire, je sais pas moi, un travail mental par rapport à ça, ou tu redoutes de te dire, je vais peut-être réaliser ce qui m'arrive?
Oui, je me pose souvent la question. Qu'est-ce que ça va donner à l'UFC une fois que je serai là-bas? Est-ce que je vais avoir de la pression? Après, c'est sûr, quand il y aura les caméras, les interviews, tout ça, je vais avoir la pression. Ça, c'est sûr, et je vais beaucoup travailler sur ça. Parce que, tu sais, je ne suis pas habitué à donner des interviews, etc. Mais sinon, pour le combat, je pense que ça sera un combat comme un autre à l'UFC. C'est certes, l'UFC, il y a la foule, etc. Mais je sais que la foule, ça va me motiver au contraire. Parce que je me rappelle, à l'époque où j'avais accompagné Thierry Sogoudjou au KSW, à ce moment-là, ils organisaient dans un stade de foot, et il y avait 60 000 spectateurs.
Record, c'est le record, voilà. Pour un combat, pour un événement MMA.
C'est ça, c'était énorme. La foule, tout ça, je te jure, ce jour-là, je voulais plonger dans la cage et combattre. Et ça me motivait, j'avais vu ça. Au contraire, je pense que la foule, tout ça, ça va me motiver. Après, pour tout ce qui est caméra, faudra bosser.
Mais là, tu parlais de la foule, mais ça va être à huis clos. Et ça pour toi,
ouais,
est-ce
non,
que c'est...
je parle plus tard.
Ah oui.
Plus tard, ouais.
Mais et c'est pas mieux pour toi de, entre combattre à huis clos et combattre... Parce que moi, personnellement, je sais pas si t'as regardé les récents UFC, j'adore. Parce que t'entends les instructions des coachs, t'entends aussi le bruit, tu ressens vraiment beaucoup plus les trucs. Toi, tu préfères quand il y a du public, ou au contraire quand c'est... Bah, pour l'instant, t'as pas combattu à huis clos, d'ailleurs.
Pour le moment, non, mais j'imagine un peu ce que ça doit donner. Et non, franchement, je préfère quand il y a du monde.
Ok.
Ça me motive grave.
D'accord.
C'est aussi ça qui m'enlève le stress. Quand je te dis qu'avant les combats, je suis serein, il y a la foule aussi, ça me motive. C'est pas comme l'expliquer. Je suis confiant. Voilà, psychologiquement, je suis bien quand il y a la foule. Après, on va voir ce que ça va donner. Le contender, s'il n'y a personne, je pense.
Non, c'est ça. Exactement. Ouais, il y a Dana White. Il y a les matchmakers.
Ah, voilà, les...
Et puis voilà, et puis toi, et puis, bah, puis ton adversaire.
Heureusement.
Et là, une fois, si tout se passe bien, tout se passe formidablement bien, t'as le title shot contre Adesanya, tu vois, d'ici, on va dire, un an et demi, deux ans, pour pas trop aller trop vite, hein, en ayant des victoires sur Romero, sur Costa entre-temps, t'aimerais faire ce combat-là, ou est-ce qu'il y a un endroit en particulier où toi, t'aimerais combattre?
Tac, 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 à Paris.
Ah ouais, à Paris, d'accord.
Ah, carrément, ouais. Okay. Carrément, pour moi, c'est très important de combattre devant son public, devant, devant sa famille. C'est énorme. J'aimerais, c'est un rêve. C'est carrément un rêve. J'aimerais bien de combattre. Ouais.
Et ben voilà, le rêve de Nassour Imamov. En fait, j'avais une ultime question. Je suis désolé, mais pour toi aujourd'hui, c'est qui le meilleur combattant actuel? Ou le mec qui, où tu te dis, waouh. Et pas forcément dans ta catégorie, hein, toutes catégories confondues. Toi, quand est-ce que tu te lèves à 6h du matin pour regarder un gars combattre? Moi, si tu te lèves à 6h du matin pour regarder les mecs combattre.
Il y a plusieurs combats. Il y a plusieurs combattants. C'est John Jones, par exemple, Khabib. Tac, tac, tac. Et voilà, non, il n'y a que...
Voilà. Et ben voilà.
Les, vraiment les top, que, les meilleurs pour moi, c'est John Jones. Déjà, ça, c'est le meilleur. Bon, après...
Et ton frère qu'il a ralenti John Jones depuis quelques temps?
Oui, carrément. Je pense qu'il vaudrait mieux d'arrêter.
Ah ouais? Ah oui.
Il y a un moment où il faut savoir arrêter. Tu ne peux pas être champion toute ta vie. Et je pense que ça serait mieux qu'il s'arrête.
Ah. Et donc toi, tu penses déjà... Non, tu ne penses pas à ça. De te dire, faut avoir la sagesse de se dire, quand je ne peux plus, je ne peux plus.
Ah oui, carrément. Je pense que... Non, je... Je pense qu'à 35... Ouais, t'as 35 ans, j'arrêterai. Bah, c'est pas sûr. Hein.
Ouais, mais
je dis ça, on est encore très loin. Très très loin. Je dis 35 ans parce que je suis loin.
Oui.
Peut-être quand ça va arriver, je vais commencer à gratter un peu parce que tu sais comment c'est.
Exactement.
Le sport, c'est dur à arrêter.
C'est ça.
C'est comme une drogue.
Exactement. Et puis surtout qu'à 35 ans, bah, t'auras ce statut soit de champion UFC ou top contender. Donc, t'as les gros salaires aussi qui sont là. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de dire. Ouais, la sourdine, tu vas combattre pour 800 000 dollars et tu vas dire non.
Ouais, c'est clair.
Enfin, bah formidable. Donc voilà, la sourdine, merci beaucoup.
Merci à toi.
Swear.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.